Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais à tous vous souhaiter une bonne et sainte année, bien que pour un catholique, l'année commence un mois plus tôt, au premier dimanche de l'Avent, avec le début de la nouvelle année liturgique. Cependant, c'est la nouvelle année civile et il nous faut bien sûr mettre toutes nos activités, toutes nos pensées, toutes les actions que nous faisons tous les jours au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, au pied de cet enfant nouveau-né dans la crèche de Bethléem, cet enfant qui semble, je dirais humainement parlant, tout à fait insignifiant, qui est né dans le dénuement le plus complet, dans la pauvreté la plus complète. Mais nous savons, en tant que catholiques, nous savons que cet enfant est un enfant qui est vraiment homme, mais qui est aussi Dieu. Grand, grand mystère de la foi catholique. Comment est-il possible pour un enfant, pour un bébé de ce genre, qui semble absolument sans aucune importance, humainement parlant encore une fois, d'être à la fois Dieu et à la fois homme? C'est tout le mystère de l'incarnation. Alors, il faut justement, en ce début d'année, nous mettre à genoux. Savoir nous mettre à genoux. C'est dans la mesure où l'homme sait se mettre à genoux que l'homme devient grand. Un homme qui est incapable de s'agenouiller est un homme qui est incapable de la moindre grandeur devant Dieu. C'est un peu le système des vases communicants. Si on se fait petit devant Dieu, le bon Dieu peut grandir dans notre âme. Si au contraire on se prétend grand devant Dieu, évidemment, Dieu est obligé de diminuer sa présence dans nos âmes. Et lorsque l'on reprend tous les textes liturgiques de ces derniers jours, de la semaine qui arrive, qui sont centrés donc sur la fête de Noël, eh bien on trouve deux choses, deux idées qui se reprennent souvent, qu'on retrouve souvent dans la liturgie de ces jours. D'abord, la liturgie insiste sur le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, unique nom par lequel nous pouvons être sauvés. La grande fête de demain. Demain sera la fête du Saint-Nom de Jésus, relisez l'épître magnifique de la fête du Saint-Nom de Jésus, tirée des Actes des Apôtres. Saint-Pierre explique justement à tous les gens qui viennent l'acclamer parce qu'il a fait un miracle, eh bien, il explique que c'est par le seul nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés. Il n'y a qu'une seule porte d'entrée au ciel et cette porte a pour nom notre Seigneur Jésus-Christ. Vrai Dieu et vrai homme. C'est la première chose qu'il nous faut comprendre. La deuxième chose qu'il nous faut comprendre, on le voit très clairement dans les textes, cette fois-ci tirés des évangiles de ces derniers jours, des jours à venir. L'Église va répéter plusieurs fois la prophétie de Simeon. Vous connaissez tous cette histoire, qui est certainement une des histoires clés que l'on retrouve dans le début de l'Évangile, parce que c'est un fait historique qui, s'il est bien compris, peut ouvrir dans nos cœurs, dans nos intelligences, justement, beaucoup de choses pour nous faire comprendre l'immense miséricorde du bon Dieu pour nous. Lorsque notre Sainte Vierge Marie vient apporter l'enfant Jésus au temple, selon la loi juive, pour la purification de notre Sainte Vierge Marie, eh bien, il y a, comme vous le savez, un vieillard qui attend, Siméon. Et il lui avait été révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir tenu entre ses bras le Sauveur du monde. Et lorsque la très sainte Vierge Marie arrive avec l'enfant mailloté entre ses mains et le Saint Joseph qui l'accompagne, bien sûr, le Saint-Esprit va révéler à cet homme, ce bébé là-bas qui arrive, c'est lui. Alors Siméon oublie tout, se précipite vers la Sainte Famille, prend ce bébé entre ses mains, va faire cette prophétie. C'est soit la dernière prophétie de l'Ancien Testament ou la première du Nouveau, comme vous voulez. Il va prendre ce bébé et va dire ce bébé sera pour la ruine ou la résurrection de beaucoup en Israël. Un signe de contradiction. Et puis il va regarder la très sainte Vierge Marie droit dans les yeux et va lui dire un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Humainement parlant encore, on ne peut pas comprendre ces choses-là. La très sainte Vierge Marie arrive avec Saint Joseph, toute joyeuse pour présenter son enfant, et voilà que cet inconnu, ce vieillard, vient, je dirais, tout mettre par terre, humainement parlant encore une fois. Un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Pourquoi, alors que nous sommes dans la joie de Noël, pourquoi vouloir amener cette idée de meurtre, cette idée de crime, cette idée de sang déjà répandue? Mais la réponse est toute simple, mes bien chers frères. On ne peut pas séparer l'incarnation de la rédemption. On ne peut pas séparer la crèche du calvaire. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ vient-il dans la crèche? Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ prend-il la nature humaine pour pouvoir mourir? Il ne prend pas la nature humaine pour pouvoir jouir de la vie. Il prend la nature humaine parce que cette nature humaine est absolument indispensable pour lui, pour qu'il puisse mourir. Un Dieu ne peut pas mourir parce qu'il est éternel. Et donc il avertit tout de suite, cet enfant sera un signe de contradiction pour beaucoup en Israël. Pour la ruine ou pour la résurrection de beaucoup en Israël, qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ est détesté dans le monde moderne. C'est que devant notre Seigneur Jésus-Christ, on est obligé de faire un choix. On ne peut pas dire devant notre Seigneur Jésus-Christ, je ne veux pas m'en mêler, ce n'est pas mes histoires. Personne ne peut être neutre devant notre Seigneur. Ou on est pour, ou on est contre. Ou on cherche à mettre notre Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur, on essaie de lui donner la totalité de notre cœur, notre intelligence, notre volonté. Ou au contraire, on le met dehors et remplace la présence du bon Dieu par la présence du démon dans notre âme. Ou on adore notre Seigneur Jésus-Christ, ou on adore le démon. Ou on suit la loi des 10 commandements de Dieu, ou on suit la loi des droits de l'homme. Ou on suit la pauvreté, la chasteté, l'obéissance des conseils évangéliques, ou on suit au contraire la liberté, l'égalité, la fraternité républicaine. On est seulement obligé de faire un choix. Personne ne peut rester neutre devant notre Seigneur. Ou on choisit notre Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ va nous élever vers le ciel. Ou au contraire, on refuse notre Seigneur Jésus-Christ, remplace notre Seigneur Jésus-Christ par le démon. Le démon, évidemment, va nous entraîner dans les bas-fonds de l'enfer. Voilà, bien cher frère, ce qu'il nous faut comprendre et bien réaliser qu'à cause de cela, notre Seigneur est un signe de contradiction. Et si notre Seigneur Jésus-Christ était déjà un signe de contradiction, alors qu'il n'est encore qu'un bébé, soyez pas surpris si l'Église est aussi un signe de contradiction. Et je dirais, dans le monde moderne, pour voir où est la vérité, il suffit de voir où est la contradiction. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas un signe de contradiction, eh bien, ça prouverait qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'aurait pas été Dieu. Et ça veut dire un signe de contradiction. Un signe de contradiction, c'est contradiction par rapport à quoi? Par rapport à qui? La contradiction par rapport au monde. Le monde va à droite, là, le chrétien va à gauche. Le monde va à gauche, le catholique va à droite. C'est ça la contradiction. Vos contradictions, vous avez le mot contraire. Donc, un catholique ne peut pas penser comme les gens du monde moderne qui vivent sans Dieu. Le cœur d'un catholique ne peut pas être rempli de la même chose que le cœur d'un païen. L'intelligence d'un catholique ne peut pas être remplie de choses identiques à celles qui sont dans l'intelligence d'un païen. Parce que en notre Seigneur Jésus-Christ, tout est centré sur le nom de Jésus. Pour un païen, bon, au contraire, tout est centré sur soi-même, sur l'orgueil de l'homme moderne. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction. Et s'il est un signe de contradiction, ne soyez pas surpris, mes bien chers frères, si l'Église, son Église, est un signe de contradiction. Et on peut même aller plus loin que ça en disant que si l'Église catholique n'était pas un signe de contradiction dans le monde moderne, eh bien cela serait la preuve que cette Église est une fausse Église. Et si l'Église catholique est un signe de contradiction, alors ne soyons pas surpris de savoir que nous aussi, nous devons être des signes de contradiction. Et on peut aller exactement dire la même chose sur chacun d'entre nous. Si vous et moi, nous ne sommes pas dans le monde moderne des signes de contradiction, c'est bien la preuve que nous ne sommes pas des vrais catholiques. Si le monde ne nous hait pas, ne nous déteste pas, c'est bien la preuve que nous ne sommes pas des vrais catholiques. Parce que quelqu'un qui est un catholique, c'est quelqu'un qui suit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que déjà dès le début, c'est cette prophétie de fils de Siméon nous annonce l'arrivée du martyr de notre Seigneur Jésus-Christ. Un glaive de douleur vous percera l'âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir, en tant que mère de Dieu, en tant que mère de l'enfant Jésus, vous allez devoir, vous, Marie, vous allez devoir participer au plan de la rédemption. Et comme la rédemption se fait par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, la très sainte Vierge Marie va devoir participer à cette mort. C'est une preuve de supplémentaire que Notre-Dame est vraiment co-rédemptrice du genre humain. C'est pour cela qu'elle est à la croix. pour cela qu'elle est à la croix, qu'elle est au pied de la croix le vendredi saint, qu'elle regarde son fils et qu'elle porte en quelque sorte son fils dans son sacrifice. Voilà ce qu'il nous faut comprendre. La Sainte Vierge Marie elle-même n'a pas tout compris, elle ne pouvait pas tout comprendre. Il a fallu attendre évidemment l'arrivée du Saint-Esprit, la fête de la Pentecôte, pour que la Sainte Vierge Marie et les apôtres puissent comprendre toutes ces choses-là. Il y a une petite phrase dans l'évangile de Saint-Luc, juste après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dit que la très sainte Vierge Marie conservait toutes ces choses dans son cœur, les méditant sans cesse. Pourquoi? Parce que justement, elle n'était pas capable encore de comprendre toutes ces choses, c'est un mystère tellement insondable. Pourquoi son fils, qui est plein de vie, pourquoi son fils, de même qu'elle l'a mis sur le bois de la crèche, elle va devoir le mettre sur le bois de la croix? De même qu'elle enveloppe de l'ange son fils divin qui vient de naître et va un jour devoir l'envelopper de la seule, le jour de sa mort. Et évidemment, beaucoup de catholiques, vous et moi, nous sommes tentés de dire la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, l'incarnation, oui, la rédemption, non. La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ avec toutes les joies de la crèche, avec les bergers qui viennent apporter leurs dons, avec les rois mages qui vont dans quelques jours venir apporter leur lance à la mer. Alors là, on est d'accord. Mais lorsque notre Seigneur Jésus-Christ monte au calvaire en portant sa croix, alors là, on n'est plus d'accord. Quand notre Seigneur Jésus-Christ va manger avec ses apôtres aux noces de Cana, tout le monde est d'accord pour le suivre. Et quand notre Seigneur Jésus-Christ prend sa croix sur ses épaules, pour aller monter vers le calvaire, alors à ce moment-là, on a bien plus de mal à le suivre. Donc la grâce qu'il nous faut demander en cette fête de Noël, en ce temps de Noël, mes bien chers frères, c'est la grâce de savoir voir derrière la fête de Noël la croix qui resplendit. Et de même qu'on peut voir que les choses négatives de la fête de Noël, le froid, l'isolation, l'isolement, la pauvreté de la crèche, de la même façon, on peut ne voir dans la croix du calvaire que les choses négatives. Humainement parlant, à 3 heures de l'après-midi, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ meurt sur la croix, le vendredi saint, humainement parlant, c'est un échec complet. Mais en fait, ce n'est pas un échec, c'est une victoire complète. Au moment précis où le démon pensait avoir remporté la victoire, c'est à ce moment-là qu'il a tout perdu. Et donc, il faut savoir utiliser l'innocence de la crèche pour monter vers le calvaire. Et à partir de cette montée au calvaire, monter encore plus haut, parce que la croix nous indique une autre direction. La croix nous indique la direction du ciel. La croix est comme, ce sont les saints qui le disent, la petite clé qui ouvre la porte du paradis. Et n'oublions pas aussi un autre point qui me semble aussi important de bien comprendre. Entre l'innocence de la crèche et la douleur de la croix du calvaire, il y a un point de passage obligatoire. On passe de la crèche au ciel en passant par le tabernacle. Le tabernacle est ce point de passage obligatoire. Et c'est dans la mesure où nous saurons nous abaisser devant le tabernacle, nous humilier devant le tabernacle, nous agenouiller devant le tabernacle, c'est dans cette mesure exactement que nous saurons justement prendre les forces dont nous avons besoin pour arriver jusqu'à la croix. Parce que pour aller du calvaire de la crèche à la croix, il y a un long chemin. Et ce chemin est trop long pour nous, il faut prendre nos forces. Et ces forces, nous les trouverons dans le tabernacle. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'a pas une vie intérieure profonde, quelqu'un qui n'aime pas méditer devant notre Seigneur Jésus-Christ, va vite se trouver sans carburant spirituel. Et son moteur spirituel va devoir tourner au ralenti, si ce n'est pas devoir s'arrêter totalement. Et on trouve les mêmes idées même dans l'épître d'aujourd'hui, l'épître de saint Paul à Tite. Qu'est-ce que nous dit saint Paul? Saint Paul nous donne cette phrase assez étonnante qu'il faut bien comprendre. Il parle de la grâce qui est manifestée à tous les hommes. Par la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, par la croix qui est derrière la crèche, c'est déjà la grâce qui est manifestée à tous les hommes. Mais la manifestation de la grâce, ça ne suffit pas, mes bien chers frères. Ce n'est pas parce qu'une vérité est manifestée devant nous, ça veut dire qu'elle est dans notre cœur. Donc la grâce manifestée ne suffit pas, il va falloir prendre cette grâce et l'accepter, la prendre, je dirais, dans nos cœurs pour pouvoir en vivre de cette grâce. Donc il faut que cette grâce manifestée devienne une grâce qui soit donnée totalement au cœur qui veut recevoir cette grâce. Donc nous devons demander avec beaucoup d'humilité, mes bien chers frères, la force de savoir accepter la grâce de Noël. Et si tant de gens ont du mal à accepter la grâce de Noël, c'est parce qu'ils sentent très bien que derrière la grâce de Noël, il y a la grâce de la rédemption par la croix. Voilà pourquoi Saint Paul à Tite vous donne tous ses conseils en disant qu'il faut sortir de l'impiété, sortir des convoitises de ce monde. Sortir de la piété, sortir des convoitises de ce monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement avoir une vie intérieure. L'impiété, c'est quoi? L'impiété, c'est la destruction de toute forme de vie intérieure. Quelqu'un qui n'a pas la piété, c'est quelqu'un qui n'a pas l'amour du bon Dieu. Où commence l'amour du bon Dieu? L'amour du bon Dieu commence devant le tabernacle. C'est l'âme qui se met à genoux devant le tabernacle et qui dit, Seigneur, je suis un pauvre pécheur, venez dans mon cœur, venez purifier mon cœur pour que je puisse vous recevoir totalement et pleinement. Sortir de l'impiété, sortir des convoitises de ce monde, ça veut dire justement mettre en effet cette contradiction dont a parlé le vieillard Siméon. On sort de ce monde, on sort de l'impiété justement en refaisant l'esprit du monde. Donc un chrétien adorateur de notre Seigneur Jésus-Christ dans la crèche de Bethléem, un chrétien catholique qui adore la croix, c'est quelqu'un qui sort de l'impiété, qui sort des convoitises de ce monde et qui une fois, après avoir sorti justement toutes ces choses qui n'ont rien à voir dans notre âme, va remplacer ces choses par la vertu de piété. La piété est détruite, la piété va rentrer. Les convoitises de ce monde vont sortir avec les trois concupiscences. Évidemment, l'esprit de la croix va pouvoir rentrer. Qu'est-ce qui sort les concupiscences du cœur de l'homme? C'est justement la vertu de la croix. La vertu de la croix, si vous voulez, la croix est comme une espèce de bistouri spirituel qui va couper, tailler dans la masse pour que les choses mauvaises qui n'ont pas à être restées dans notre cœur puissent être rejetées. Alors le vide se fera, alors la place se fera pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse vraiment venir vivre dans cette âme, dans ce cœur. Et Saint Paul va demander justement à ce que nous vivions une vie de tempérance, de probité, de piété, que nous rachetions toute iniquité. Voilà ce qu'il demande. C'est quoi le rachat de l'iniquité? C'est un changement complet de vie. Mettre le démon dehors, mettre le monde dehors pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse venir vivre dans une âme. Notre Seigneur Jésus-Christ est jaloux de sa gloire. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il ne peut pas tolérer d'être dans une âme qui veut adorer à la fois notre Seigneur Jésus-Christ et à la fois le Dieu du monde. Donc, où j'adore notre Seigneur Jésus-Christ, où j'adore le Dieu du monde, c'est ce que dit très bien saint Augustin. Ou l'amour du bon Dieu jusqu'au mépris de soi-même, ou l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu. Donc dans quelle catégorie vais-je me placer? Est-ce que je veux que notre Seigneur Jésus-Christ soit vraiment le roi de mon âme? Est-ce que je veux que l'enfant de la crèche soit le roi de mon âme pour que je puisse être au pied de la croix le vendredi saint? Ou est-ce qu'au contraire, je veux être comme Hérode, comme les pharisiens, qui vont totalement paniquer au moment où l'enfant arrive? Et qu'est-ce que fait Hérode tout de suite? Tout de suite, à cause de cette panique, il cherche qu'une seule chose, se débarrasser de cette menace. Un enfant arrive tout humble, tout nu dans la crèche, il fait peur au monde, justement parce qu'ils savent très bien, cet enfant n'est pas un simple enfant, il est Dieu. Alors nous allons demander, mes bien chers frères, pendant ce temps de Noël, nous allons demander à ce que notre âme, justement, puisse s'ouvrir à la grâce. Que notre Seigneur Jésus-Christ puisse vraiment venir chez nous et être chez nous comme chez lui. Puisque cette âme dans laquelle il veut demeurer, c'est lui qui l'a créée. Voilà ce que nous allons demander. Et n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ est venu au monde par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie. Si la très sainte Vierge Marie n'avait pas donné son fiat à l'ange le 25 mars, qu'il en soit fait en moi selon votre parole, le Verbe n'aurait pas pu prendre chair justement à la très sainte Vierge Marie. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses. Elle-même n'a pas tout compris au début, maintenant elle a tout compris puisqu'elle est dans la gloire du ciel. Mais demandons-lui de venir nous aider. Et comme nous sommes un peu hésitants à la porte de la crèche, à la porte du lieu où est la crèche, eh bien demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à nous montrer le chemin qui mène à son divin Fils. La très sainte Vierge Marie est la créature qui amène à Dieu. De telle façon que celui qui ne veut pas notre Sainte Vierge Marie, évidemment, sera incapable d'arriver à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme quelqu'un qui veut rentrer dans une maison qui refuse de mettre la clé dans la serrure pour ouvrir la porte. La porte, c'est le Christ, la serrure qui ouvre cette porte, c'est Notre-Dame. Donc demandons, mes bien chers frères, demandons à notre Sainte Vierge Marie avec beaucoup d'humilité, en même temps avec beaucoup d'amour, demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous obtenir toutes ces grâces de lumière, ces grâces de force, qui nous aideront, si vous voulez, à accepter la crèche pour pouvoir accepter la croix qui sanctifie, la croix qui mène au ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Thank you.